Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs. Bonsoir, peut-être vous qui êtes de passage parmi nous. Le Seigneur a mis sur mon cœur pour ce soir une histoire qui est écrite dans la Bible. Je vais vous prévenir, au début, elle commençait difficilement, elle est un peu triste, mais je vous rassure, elle se termine très bien. Nous allons lire dans le deuxième livre de Samuel, 2 Samuel, chapitre 11. Nous lirons longuement, c'est une histoire assez longue, mais je voudrais qu'on la lise tout entière. L'année suivante, l'année qui suit quoi ? Qui suit une guerre où David a été vainqueur sur une coalition de rois. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour porter la destruction chez les Ammonites et pour assiéger Rabba, mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche comme il se promenait sur le toit de la maison royale. Du toit, il aperçut une femme qui se baignait et qui était très belle. David envoya prendre des informations sur cette femme. On lui dit, c'est Bathsheba, fille d'Eliam, femme du Hittite. David envoya des messagers pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle alors qu'elle se purifiait justement de son impureté. Elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et envoya dire à David, « Je suis enceinte. » Alors David envoya dire à Joab, « Envoie-moi Uri, le Hittite. » Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends dans ta maison et lave tes pieds. » Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son seigneur. Il ne descendit pas dans sa maison. On le rapporta à David en lui disant, « Uri n'est pas descendu dans sa maison. » Alors David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, l'arche, ainsi qu'Israël et Juda, habitent sous des huttes. Mon seigneur Joab et les serviteurs campent en rase campagne, et moi j'entrerai dans ma maison pour boire, pour manger et boire, et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant, toi-même, je ne ferai pas une chose pareille. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui, et demain, je te renverrai. Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence. Il enivra. Le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son seigneur, mais il ne descendit pas dans sa maison. Au matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par l'intermédiaire d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, « Placez Uri à la pointe du combat le plus violent, et retirez-vous en arrière de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, en observant la ville, plaça Uri à un endroit où il savait qu'il y avait des hommes vaillants. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab, et il en tomba parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri, le Hittite, mourit aussi. Je ne sais pas si je peux terminer en disant « Amen, tellement l'histoire est triste ». Nous allons lire un peu plus loin, au chapitre 12. L'Éternel envoya Nathan vers David. Nathan vint à lui et lui dit « Il y avait dans une même ville deux hommes, un riche et l'autre pauvre. Le riche avait du petit et du gros bétail en très grande quantité. Le pauvre n'avait rien du tout, sinon une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait, elle grandissait chez lui avec ses fils, elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, elle était pour lui comme une fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche ménagea son petit ou son gros bétail pour préparer un repas au voyageur arrivé chez lui. Il prit la brebis du pauvre et la prêta pour l'homme arrivé chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra au quadruple la brebis pour avoir commis cette action et pour avoir agi sans ménagement. Alors Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, Dieu d'Israël. C'est moi qui t'ai donné l'onction comme roi sur Israël. C'est moi qui t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai donné la maison de ton Seigneur. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton Seigneur. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Si cela était trop peu, j'y ajouterai encore. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Hittite. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des Ammonites. Maintenant, l'épée ne s'écartera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri, le Hittite, pour en faire ta femme. Ainsi par l'Éternel, je vais susciter un malheur contre toi du sein de ta famille. Je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à l'un de tes proches qui couchera avec elle à la vue du soleil, de son soleil. Car tu agis en secret, et moi je ferai cela en face de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Amen. Cette histoire, on l'a souvent lue, on a souvent entendu parler de ce problème qui est arrivé à David. Je pense que nous pouvons tous en tirer des enseignements, l'inconverti comme l'enfant de Dieu, dans ce propos que je vais développer, que j'ai titré « Que celui qui pense être debout prenne garde de tomber ». Il y a un frère qui prononçait cette phrase ici en introduisant, je crois, la Sainte Cène, il y a très peu de temps, ça m'a touché dans mon cœur, que celui qui est debout prenne garde de tomber. On peut s'interroger et se dire, mais c'est quand même David. Comment il peut lui arriver de commettre ces choses ignobles? De faire assassiner un guerrier de l'Éternel par les ennemis du peuple de l'Éternel. De prendre sa femme, de faire ces choses vraiment infâme. La première chose que nous allons voir ensemble, c'est que David avait quand même des atouts. Il avait des moyens. Il n'était pas quelqu'un qui était ignorant de la parole de Dieu, ignorant du Seigneur. Il avait des atouts. Deuxièmement, on verra que ces atouts ont été neutralisés. Mais pourquoi? Et enfin, on verra le plus important, comment le Seigneur l'a relevé. La première chose, David avait des atouts. L'atout basique, il avait une conscience, comme chacun d'entre nous. Parler de la conscience, c'est biblique, puisque Romains 2, 14 et 15, ne l'ouvrez pas la Bible, je vais vous dire ce qu'il en dit. Paul parle de la conscience. Paul dit que même les païens qui ne connaissaient pas Dieu, qui ne connaissaient pas les Écritures, en ont une, en vertu de laquelle leur pensée s'accuse ou se défendent. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons le souffle de Dieu. J'ai grandi en observant mon grand-père. On a essayé de l'amener à l'église, il a refusé. Mais je n'oublierai jamais comment il avait l'idée qu'il y a un Dieu et qu'il y a un médiateur. Un seul Dieu avec un seul médiateur. Nous avons une conscience en vertu de laquelle on peut relativement savoir ce qui est bien, ce qui est mal, mais il y a un problème. Deux problèmes d'ailleurs. Le premier problème qui est quand même assez grave pour la conscience, c'est qu'elle fluctue. C'est qu'elle déplace sans cesse la frontière entre ce qu'elle pense être bien et ce qu'elle pense être mal. Je ne vais pas vous choquer, mais il n'y a rien d'aussi choquant que de voir un peuple, des gens qui ont vécu ensemble dans un village, après un certain temps où des gens pseudo-politiciens les agitent les uns contre les autres, leur donnent des idées, leur parlent, tout d'un coup se lèvent massivement et se mettent à s'entretuer d'une façon terrible. Ce sont des choses que j'ai vécues, ce n'est pas pour vous faire beaucoup de mal, mais c'est pour vous faire comprendre que ces gens, je vous assure, ils s'aimaient, ce n'était pas hypocrite. Mais au fil du temps, des années, on leur a pompé des idées à la tête et leur conscience a déplacé la limite. Terriblement, de façon qu'à un certain moment, le voisin, il est devenu non pas un ennemi, mais on l'a minimisé, c'était moins que rien. On pouvait l'appeler un serpent venimeux. Vous tuez un serpent venimeux, mais vous faites du bien à la communauté. Vous tuez un cancre là, vous faites du bien à la communauté. Excusez-moi, c'est bon que vous sachiez où ça peut aller, comment on déplace la frontière entre ce qui est bien et ce qui est mal. Le deuxième problème, même celui qui dirait, même ma conscience, moi je sais que je ne peux pas arriver à faire ces choses-là, je ne les ai jamais faites, et je pense que je ne les ferai jamais, mais nous savons tous que la conscience, comme tout ce qui est humain, elle est faillible. Elle est forcément faillible. Chacun de nous, moi je ne lui jetais pas la pierre à David, puisque avec ma conscience, envie de jeter un coup d'œil, de dire, il y a des choses qui sont passées, heureusement le Seigneur m'a pardonné. Le Seigneur m'a lavé de ces choses. Et moi aussi j'avais la conscience. Moi aussi j'avais été bien éduqué. On ne peut pas dire, j'ai ma conscience, je triompherai du mal, c'est impossible. À un certain moment, on ne sait plus quoi croire, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Il nous faut une référence absolue. Et alléluia, nous l'avons, c'est la parole de Dieu. On va laisser cet atout basique, parler surtout des atouts vraiment importants. David, il avait engrangé quand même beaucoup d'expériences réellement spirituelles. Je ne vais pas tout lire, mais si ça vous intéresse, vous le lirez dans le premier livre de Samuel, comment son histoire débute. Un jour, on voit venir Samuel le prophète. Il vient, il dit, je viens offrir un sacrifice. Et il appelle Isaïe, le père de David. Vous venez au sacrifice et vous venez avec tous vos fils. Le Seigneur lui avait dit, j'ai trouvé un homme, va oindre un enfant chez Isaïe. Il ne lui a pas donné le nom. Il arrive, bien sûr, on commence par l'aîné. Il était grand, il était beau. Et il s'est dit, sûrement c'est lui. L'Éternel a dit, non, l'Éternel ne regarde pas l'apparence, mais il regarde au cœur. Il fait passer les enfants, non, il n'y a personne. Il pose la question, mais il n'y a personne d'autre? Oui, un petit garçon, il est dans les champs, il est derrière la ville des troupeaux. Appelez-le, je reste ici jusqu'à ce qu'il arrive. Et le garçon arriva, je ne sais pas quel âge il avait, j'ai l'impression qu'il n'était pas encore majeur. Il arrive, il est tout beau, il est tout petit, innocemment, et Dieu lui dit, voici l'homme, où est-le? Et au milieu de ses frères, le petit garçon, le berger du petit bétail, il est loin. Et surtout, l'atout là où j'allais vous le montrer, c'est que la Bible dit ceci expressément, l'Esprit de l'Éternel s'empara de David à partir de ce jour et dans la suite. Alléluia! L'important, ce n'est pas l'onction pour être roi. L'important, c'est que son cœur, je me demande comment il a eu son cœur ouvert à percevoir, à comprendre que derrière cette onction, il y avait un autre niveau. Ça ne lui a pas été comme ceci, comment dirais-je, ça ne lui a pas été jeté déçu. À mon avis, ça a rencontré une vertu de son cœur. Dieu n'a jamais obligé quelqu'un à recevoir de son esprit. Il a ouvert son cœur. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel s'empara de David dès ce jour et dans la suite. Il avait un grand atout. L'Esprit de Dieu était en lui. Et vous pouvez me dire, mais comment on le sait? Vous verrez en lisant dans ce livre 1 Samuel, 1, comment il est vraiment humble, d'une humilité extraordinaire. Il est loin pour devenir roi, et il le sait. De retour, est-ce qu'il dit, montre-moi où sera mon trône, montre-moi où sera mon palais. Il retourne ça derrière le petit bétail. Ça vraiment, ça m'a énormément touché. Derrière le bétail, au travail, le temps de l'Éternel viendra. Nous avons chanté, en son temps, l'Éternel fait belles les choses en son temps. On le voit plus tard avec un amour extraordinaire. Il aime son ennemi. Son ennemi, c'est qui? C'est Saül, le roi. Il a compris que il y a peut-être un roi qui peut lui piquer la place. Et il veut le tuer. Et David le sait. Un jour, tout simplement, il a voulu le transporter avec sa lance dans son palais. Il a vu sauve et il a su s'esquiver. Donc, David le sait. Mais la Bible nous dit qu'à deux reprises, il a eu ce roi sous sa coupe. Il aurait pu le tuer. Il a juste pris les signes. Un jour, il a découpé dans une caverne juste une partie du manteau. Il est parti. Et à l'autre côté loin, qu'il crie, qu'il appelle, il lui a montré le pan de son manteau. J'aurais pu vous tuer. On m'incitait à vous tuer. Mais je ne peux pas mettre la main sur loin de l'Éternel. J'ai dans cette Bible le mot Messie. Ça m'a quand même touché ce mot quand même, effectivement. Loin, le Messie, c'est loin. La deuxième fois, toujours dans une caverne. Non, ce n'est pas dans une caverne. Là où le peuple est campé, il dorme profondément. David, ses serviteurs, vont jusqu'à prendre la cruche du roi et à partir avec. Ils auraient pu le tuer. Son ennemi, il ne le tue pas. Il épargne. On voit un amour, une grande fidélité. Il a été fidèle pour la descendance de ce roi. Il n'a pas cherché à se venger plus tard. Je vois des années plus tard un petit Mephibosheth qui était perclus. Et on lui dit, il y a un petit descendant du roi Saül, vous allez me le chercher. Et on le lui amène. Il lui dit, tu vas manger à ma table, tu resteras avec moi. Donc, je vois certaines choses qui me démontrent que David, il n'agit pas avec une éthique humaine normale. Effectivement, l'Esprit de Dieu a agi en lui. Il a donc des atouts. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Un homme comme ça? La faille dans laquelle s'est engouffré ce problème, elle n'est pas bien décrite. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ce n'est pas décrit dans la Bible, dans ce passage que nous avons lu. Mais d'autres passages dans la Bible vont nous expliquer ce qui lui est arrivé. Nous lisons dans la Bible ceci. Prenez garde, veillez et priez. C'est Jésus qui le dit à ses disciples qui ont beaucoup cheminé avec lui. Prenez garde. Plus tard aussi, il dira ceci. Prenez garde à vous-même. De crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès de l'ivrognerie, par les soucis de la vie, c'est Jésus qui le dit dans Luc 21, 34. Paul écrit ceci, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. C'est dans 1 Corinthiens 10, verset 12. Paul aussi écrit, veillez donc avec soin sur votre conduite. Vous voyez les mots veiller? Veillez, prenez garde. Et Pierre écrit ceci, soyez sobre, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, fermant la foi. Soyez sobre, veillez. Veillez, soyez attentifs, restez éveillés. À un certain moment, c'était une guerre. Est-ce qu'il a été obnubilé par la guerre? Il n'était pas sur le champ de bataille. Lui, qui très souvent, quand même, avait été sur le champ de bataille. Est-ce que c'est cela qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? La Bible ne le dit pas. Mais à coup sûr, il n'a pas veillé. Il avait déchiré le lion. Il le dit, l'Éternel qui m'a délivré du lion, de l'ours, en parlant de Goliath. Il me délivrera de lui. Mais il a oublié qu'il y avait un lion qui ne se rassasie pas, un lion qui ne tue pas pour se rassasier, le lion ordinaire que nous connaissons, quand il a tué, quand il a mangé, il est tranquille, il passe la journée à dormir. Il y a un autre lion invisible. Lui, il est là pour détruire. S'il en avait les moyens, il tuerait spirituellement tout le monde. C'est le diable. David n'a pas veillé. La question qui va se poser, bien sûr, à nos enfants de Dieu, est-ce qu'il me suffit de dire « j'ai engrangé beaucoup de choses » comme si je voulais dire « j'ai des acquis déjà, quand même bien engrangés ». Vous pourriez me dire « mais je vous assure, moi je ne ferai jamais ça. Je ne ferai jamais ça. » Dans ces choses-là qui sont arrivées, que j'ai vécues, une des choses au sujet desquelles j'ai dû beaucoup lutter pour vraiment arriver à avoir la foi, à croire dans la parole de Dieu, c'était de voir des gens qui étaient, à mon avis, j'étais petit, j'avais 13 ans au début de quand ça a commencé, qui étaient convertis, qui avaient confessé le Seigneur en passant par les eaux du baptême, qui allaient à l'église, qui prenaient la Sainte Cène, et qui se mettaient à faire des choses terribles. Je ne peux jamais oublier, je ne citerai pas son nom, j'ai du respect pour lui, je pense qu'il est encore en vie. Comment je le vois le matin, mon réveillé, une lampe torche dans les yeux, le plafond s'ouvrait au-dessus de ma tête, il était en train de monter au plafond pour chercher mon père puisqu'il ne l'a pas trouvé dans la maison, je n'ai rien entendu, moi je dormais, ça devait être autour de 5 heures du matin, et il va chercher mon père dans le plafond, pensant qu'il se cache là-bas. C'était un chrétien, il avait un nom chrétien, et je le croyais chrétien, mais je pense que lui-même, à cet moment, il n'a pas veillé. Il n'a pas veillé. Mais gloire à Dieu. Le Seigneur fait bien les choses. Je vais quand même mettre cette parenthèse. Quand le Seigneur agit dans notre cœur, quand même si nous restons imparfaits, nous veillons sur nos âmes, je n'oublierai pas quand même. Ça m'a beaucoup surpris, très agréablement. En 2007, avec ma famille, on est retourné au Burundi. Eh bien, j'ai revu Nicodème. J'ai revu la fratrie avec laquelle on avait encerclé notre petite maison. Le meneur de tout ça, il était décédé. Sa femme était vraiment en difficulté. On m'a dit, elle est malade, elle est souffrante, elle est vraiment mal. Alors là, j'étais en train de visiter les gens. J'ai dit, la colline, elle est là. C'est la dernière colline là. Vous me donnez un bâton, je dois aller voir l'épouse de feu un tel. Je suis allé la voir. Elle était vraiment mal. Elle était dans le deuil. J'avais eu, les gens qui s'en souviennent, parmi vous, il y en a quelques-uns qui le savent, qui avaient collecté un peu d'argent parce qu'ils savaient qu'il y avait des problèmes. Et là, on a eu une partie, l'épouse de son monsieur untel. Avec beaucoup de joie. Ce qui m'a étonné quand même, positivement, je vous le dis, c'est que je n'ai pas eu à faire d'efforts. Je ne me suis pas du tout rappelé cette nuit où M. Untel dirigeait une expédition pour tuer mon père. On ne l'a pas tué. Voilà, il faut que vous sachiez. Il avait déjà fui. Heureusement, grâce à Dieu, il est encore en vie. Donc, pour vous dire que je me suis étonné du temps plus tard. Alors là, je suis allé voir Mme Untel. Ça ne m'a pas demandé un effort. Je suis allé avec amour, dans l'amour. Et j'ai fait ce que j'avais à faire. Sincèrement, je me suis dit, quand le Seigneur libère, il libère. Quand le Seigneur agit, il agit. Mais en même temps, la Bible nous dit, veillez, veillez, veillez. La parole est à nous. Est-ce que nous disons, l'Esprit de Dieu, oui, il habite en moi? Ou est-ce que je me dis, je dois faire gaffe. Je dois rester vigilant. Je dois veiller sur mon âme. Si je ne veille pas, d'où viendront les choses qui peuvent neutraliser beaucoup de choses que j'ai construites grâce à Dieu, pas à pas, un jour, il ne faut jamais dire ça, je ne le ferai jamais. Si je ne fais pas gaffe, je ferai des choses pires. J'ai vu des gens, des chrétiens baptisés. J'ai vu. C'est bon que vous le sachiez. Le pire, c'est quand j'ai vu un ancien de l'église. Je commençais à aller au culte des personnes adultes et j'avais beaucoup de considération pour un ancien de l'église. Et dans ce cas-là, je le rencontre. Il a quoi? Une épée très longue. Je le rencontre souvent avec sa sacoche, avec la Bible et des livres chrétiens. Ce jour-là, il a une épée. Voilà. Juste pour vous dire, nous devons veiller sur nos âmes. Il n'a pas veillé. Il avait engrangé des expériences. L'Esprit de Dieu agissait en lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a pris combien de temps? Je ne sais pas. Mais un géant est tombé parce qu'il n'a pas veillé sur son âme. L'Esprit de Dieu, il ne va développer certains comportements, certaines façons d'être, d'agir, de faire que si nous veillons, il aura ainsi la possibilité de pouvoir agir en nous et nous transformer et nous guérir et nous libérer et nous faire vivre la vie de victoire et nous faire avancer de victoire en victoire. Le plus important, je pense que c'est bon de le lire. Nous avons vu ici que pour se relever, il a dit, oui, j'ai péché. Mais il a dit mieux que ça. Regardez Psaume, les psaumes, celui-là on va le lire, Psaume 51. Alors là, quand vous le lisez, il a vraiment parlé à l'Éternel. Ça n'a pas seulement été une phrase, mais il a développé, il a parlé. Il dit ceci dans le Psaume 51. Il est dit au début, Psaume de David, lorsque le prophète Nathan vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion, efface mes crimes. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes crimes. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans la faute. Ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur, au plus secret de moi-même. Fais-moi connaître la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Et annonce-moi la félicité et la joie et les os que tu as brisés seront dans l'allégresse. Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui se révoltent et les pécheurs reviendront à toi. Amen. C'est un beau texte. Alléluia. Il se relève. Il se relève. Et en lisant notre psaume, on va y arriver, mais je vais quand même faire remarquer juste trois choses. Il faut que ça procède d'une certaine manière. Vous voyez que, un, il a dit, nous l'avons déjà lu, il a dit, oui, j'ai péché. Et il le développe, il reconnaît son péché. Il ne tourne pas autour du pot. J'ai péché, j'ai commis le crime, j'ai commis l'ignoble. La deuxième chose, il demande pardon au Seigneur de tout son cœur. Purifie-moi. Et troisième chose, c'est très important, ne me retirez pas ton Esprit Saint. Ne me retirez pas ton Esprit Saint. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il ne suffira pas d'être converti si quelqu'un était ici disant « Je vais donner mon cœur au Seigneur » et si à la fin il disait « Alors c'est bien, je suis passé de la mort à la vie, c'est bien, c'est fini, ça marche, je suis content. » S'il s'arrêtait là, ça ne marcherait pas. Il ne pourra pas avancer, il n'ira pas plus loin. Mais David, il s'est souvenu de comment il avait engrangé ses expériences spirituelles, comment l'Esprit de Dieu avait été sur lui, comment l'Esprit de Dieu l'avait quitté. Il a dit « Non, 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 je vais retrouver cet état-là. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Au contraire, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Alléluia. Maintenant, le psaume 32. Il faut terminer par quelque chose de merveilleux. Il fait partie des cinq psaumes qui commencent par « Heureux ». Les autres, je vous laisse les chercher. Il y a cinq psaumes qui vous commencent par « Heureux ». Voilà ce qui arrive quand il a fait le nécessaire, il a confessé son péché, il a demandé pardon, il a réouvert son cœur à l'Esprit de Dieu en lui. Et il dit ceci. Heureux celui dont la transgression est enlevée, celui dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os sont consumés, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main pesait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Qu'ainsi tout fidèle te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent et ne t'atteindront nullement. Tu es un abri pour moi, tu me gardes de la détresse, tu m'entoures de cris de délivrance. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein, un mort dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. Il y a beaucoup de douleur pour le méchant. Mais celui qui se confie à l'Éternel est entouré de sa bienveillance. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen. Le bonheur est revenu. Voilà un homme qui était KO, qui roulait dans la fange, qui se relève. Grâce à Dieu. Aujourd'hui, mon frère et ma sœur, aujourd'hui, peut-être vous qui êtes ici qui dites, non, je ne suis pas votre sœur, je ne suis pas votre frère, je ne m'en suis jamais relevé, jamais. La Bible dit ceci, qui est le verset clé, qui est le verset fondamental. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aime toujours faire revenir ce verset à la première personne. Dieu qui nous aime chacun à titre personnel, qui m'aime et me connaît par mon nom, chacun peut dire ce verset, le paraphraser de cette manière, le Seigneur qui me connaît par mon nom, qui m'a tellement aimé, qu'il a donné Dieu le Fils, afin qu'il meure maudit à ma place, afin qu'il détourne sur lui la colère qui m'était destinée, le châtiment qui m'était destiné, la malédiction qui m'était destinée. Il a pris ça sur lui, afin que, en croyant, non pas juste en disant, oui, je crois que c'est vrai, mais en ayant une foi vivante, une foi qui est conséquente, avec un criant en lui, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Je me remets au pied de ta croix. Tu as payé sur la croix, cette croix est ma vie. Remplis-moi de ta vie. Je vais revivre, je vais vivre, je vais être debout et je vais avancer avec toi, en toi. C'est ça, la vie éternelle. Alléluia. Nous allons courber notre front devant le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous savons que tu es présent ici. Seigneur, si ce n'était que moi, je serais un piètre prédicateur. Mais ce qui importe, c'est toi l'auteur de la parole. Toi qui as béni David. Toi qui l'as relevé. Toi qui lui as rendu la paix de son âme. Tu lui as rendu la joie de son salut. Aujourd'hui, tu es présent ici. Seigneur, tu nous as tellement aimés à titre personnel que tu as payé pour nous. Aujourd'hui, Seigneur, c'est toi qui veux relever et qui veux aussi nous aider à prendre garde, à veiller sur nos âmes, à veiller sur la vie que tu nous as donnée. Seigneur, aujourd'hui, je t'invoque, Seigneur, sur tes enfants, sur chacun d'entre nous, sur peut-être quelqu'un qui aujourd'hui est spirituellement mort et qui souffre et qui a mal et dont les os se consument, comme David l'a dit, au nom de Jésus-Christ, aie pitié de nous, Seigneur, chacun ce qui le concerne. Nous voulons, Seigneur, te glorifier. Nous voulons, Seigneur, prendre garde, car celui qui est debout aujourd'hui voudrait ne jamais tomber. Seigneur, nous voulons te glorifier. Nous voulons, Seigneur, vraiment aujourd'hui, t'être agréable et marcher droit jusqu'au bout, jusqu'au jour où tu reviendras. Où nous te verrons face à face. Je te bénis, Seigneur, car tu nous aimes tellement. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen.